Bienvenue à Evergreens by Spuekis, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Je m'appelle Stéphanie Eck, je suis professeure de finance à l'ESCA, une école de commerce française qui a récemment ouvert un campus à Luxembourg.
Mon nom est Sandra Schengen, je suis la responsable des ressources humaines au sein de Spuekis.
Je m'appelle Marie Niavro, je suis le fondateur de Luxembourg School of Business.
Aujourd'hui, dans cette période estivale, on se consacre à un sujet qui est dédié à la formation. Et donc, on regarde un peu quel est l'environnement des business schools ou la formation en général ici à Luxembourg. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec la grande question. Est-ce que la formation ou la préparation au monde professionnel a changé fondamentalement sur les dernières années?
Oui, je pense qu'il y a eu quelques changements qui continuent d'avoir lieu. D'une partie, ces changements sont liés aux évolutions technologiques. Donc ça, c'est assez factuel et tangible. La technologie s'introduit de plus en plus aussi dans les salles de cours, ce qui permet aux enseignants et aux étudiants d'avoir un autre contact, de transmettre les informations, le matériel facilement aux étudiants, le feedback. Je pense qu'il y a aussi un changement lié au data et au big data. Donc, de nos jours, tout est recensé, mesuré, repris dans des statistiques, ce qui était quand même moins le cas avant. Donc maintenant, on ne peut plus dire qu'on n'a pas l'information, mais il faut aller chercher l'information et il faut apprendre aux étudiants à aller chercher l'information dans cette incroyable mine d'or que sont les data. Donc là, il y a encore, et de nouveau, la technologie va nous aider là-dedans, mais bon, voilà, il faut amener ça dans la salle de cours. Et je pense aussi que, oui, les expériences pratiques, vraiment des cas concrets, des case studies, sont de plus en plus importants pour capter les étudiants et pour les motiver dans leurs études.
Donc là, tu as déjà anticipé quelques points sur lesquels on voulait arriver plus tard, genre voilà, big data, il faut aussi penser à l'intelligence artificielle, par exemple. La technologie, bah, bien sûr, c'est Covid qui a probablement accéléré, les modes d'enseignement un peu plus décentralisés. Comment, toi, tu vois ça dans ton espace où tu es? Est-ce que là aussi, il y a eu ce même impact ou est-ce que c'était beaucoup plus modéré?
Alors, si la question c'est comment on prépare les jeunes pour, disons, les défis d'aujourd'hui, les défis professionnels, je dirais que la réponse dépend de quel time frame on regarde, de quelle période on regarde. Dans les dernières 3 ans, peut-être, ou 5 ans, on avait, en fait, tout a accéléré. Tout a accéléré, le changement a accéléré, l'intelligence artificielle aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre encore, quel impact ça va avoir. Mais en général, si on regarde les dernières peut-être 30, 40 ans, on voit clairement que tout notre, vraiment, modèle de notre société change, et alors les sociétés changent. Quand je dis les sociétés, le business change. Et alors l'éducation change. Parce que jusqu'à encore il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'arguments qu'on pourrait mettre en avant pour dire qu'en fait, tout notre modèle d'enseignement et même la manière comment beaucoup de sociétés opèrent, c'est quasiment le playbook de fin 19e siècle, ce qui a été formé lors de la révolution industrielle. Oui, c'est un modèle industriel. L'université d'aujourd'hui encore, c'est un modèle industriel. Ce qui est très intéressant pour répondre à cette question, c'est observer un peu comment les universités ont évolué eux-mêmes. Il y a quelques siècles, en fait, pendant plusieurs siècles, l'université, c'était vraiment une collection, disons, des profs que les autres gens, ils ont suivis. Alors, si un prof bouge de Prague à Paris, il y a une vingtaine de personnes qui vont bouger derrière lui parce que c'est un peu comme Jésus et les apôtres. Parce qu'en fait, ils vont suivre lui et c'est comme ça qu'il y avait des différents aussi... je pense que ça s'appliquait dans toutes les sciences. Si vous regardez de physique, de philosophie, etc. Et c'est alors, je pense en Allemagne avec Humboldt, vraiment que tu as la première université, disons, moderne, selon un modèle industriel où tu as les silos, tu as un système qui est créé pour livrer l'éducation à des milliers de personnes de manière efficace. Et aujourd'hui, je pense, à cause de technologie, on est en train de renverser et de comprendre comment on va revenir à un modèle où l'université va être capable de livrer technologie aux millions de personnes, mais de manière personnalisée. Et ça, c'est le grand, je pense, défi. Et ça influence beaucoup comment on prépare les jeunes. Parce que préparer les jeunes de manière cookie cutter, comme j'ai dit, industrielle, comme quoi ils sont tous les mêmes. Et après, ils intègrent des sociétés qui sont complètement différentes, dont le monde de business, il bouge toujours. Hein. Ça, c'est un modèle un peu complexe. Et c'est pour ça que tu avais toujours un gap entre l'éducation supérieure et ce que les sociétés, ils ont besoin. Par contre, juste pour finir, désolé, vous pouvez m'éditer après, mais pour finir, qu'est-ce qui est important aussi de dire? Moi, j'entends toujours des sociétés qui disent « Oui, il y a un gap de skills, etc. Les universités, ils ne font pas leur boulot. » Il faut comprendre le boulot de l'université. Ce n'est pas de vous apprendre un truc technique qui va disparaître dans 10 ans. Imaginez-vous l'université qui vous a préparé pour, faire un travail qui n'existe plus. Le but de l'éducation supérieure, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils puissent mener leur vie de manière indépendante et productive pendant, aujourd'hui on peut dire pendant les prochains 100 ans. Et en fait, ça change tout. Ça change comment on prépare les jeunes. Ça va changer notre système de pension. Ça va changer l'idée que tu vas aller en retraite à 64, 65 ans. Ça, pour notre génération, je pense que ça ne va pas se passer. Voilà, désolé, peut-être j'ai un peu trop, mais
non, je pense que
ça change, oui.
Non, je pense que tu as tout à fait raison. En fait, les changements qui sont en train de se faire de manière générale, hein, et d'ailleurs, Brian, tu avais mentionné maintenant le fait aussi de la pandémie, c'est évident que ça a boosté énormément déjà vers le digital. Il y a plein de cursus à distance qu'on peut faire, même en parallèle au travail. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui change par rapport à autrefois. Donc, lorsque moi, j'ai fait mon diplôme il y a 20 ans, donc c'était tout à fait différent. Mais je te rejoins entièrement dans le fait que les cursus qui sont proposés vont préparer les étudiants. Après, ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont appris, ça, c'est encore autre chose. Hein. Ça, c'est aussi un peu dans la responsabilité de l'entreprise laquelle ils vont intégrer. Par contre, je dois dire qu'on voit quand même très clairement qu'il y a une multitude de parcours qui sont proposés, donc des thèmes qu'on n'aurait jamais dans lesquels on n'aurait jamais pu se projeter il y a X années. Donc on voit quand même bien que les universités et les autres écoles suivent les besoins quand même du business, hein, du marché. Donc ça, c'est très très clair. Et je pense qu'au niveau de la préparation, honnêtement, je pense que les étudiants sont très très bien préparé. Et en fait, c'est plutôt l'expérience professionnelle par la suite qui va amener cette diversité des backgrounds, qui va bien sûr augmenter leurs chances de se faire embaucher par des employeurs de leur choix. Mais c'est vrai que c'est, comment dire, de plus en plus complexe, de plus en plus diversifié. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que tu viens d'ailleurs de le mentionner, les compétences aussi du futur, c'est un sujet sur lequel on discute beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire futur, hein? C'est une évolution continue. Et bien sûr, il faut préparer les gens, mais ça se fait de façon naturelle. Hein, je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans la formation continue, où là aussi, également, il y a une grande lancée en termes de l'offre. Donc, voilà.
Est-ce que vous pensez que à l'ancienne, un auditoire avec 1000 étudiants et que le profil parle et que tout le monde doit écouter comme s'il était à la messe, c'est un peu terminé et c'est, comme tu disais, c'est un peu plus collaboratif, un peu plus interactif, plus personnalisé. Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire avec ça?
Oui et non. Mon message, c'est encore plus large. Mais disons, ça, c'est terminé si c'est la seule chose que tu fais. Là, tu as un problème. Si ton approche pédagogique, c'est le prof qui est dans une salle de, je sais pas, 200-300 personnes et les étudiants écrivent et ils écoutent, ça a très peu de valeur. Par contre, parfois, ça c'est aussi efficace. Et parfois, dans certains cours, tu peux avoir 2 heures par semaine de ça, suivi par des conférences plus petites, par de case studies, des projets, etc. Alors, c'est pas l'un ne l'exclut pas l'autre, mais tout ça, ça existe déjà pendant des décennies. Ça, c'est rien de très nouveau. Moi, je pense en fait que ce que Madame Sandra vient de dire, c'est en fait, j'aime même pas vraiment le terme formation continue parce que ça implique que ça doit continuer. En fait, moi, je pense que ça va jamais s'arrêter. Et en fait, je trouve qu'il y a aujourd'hui il y a un très fort même business case pour l'éducation supérieure en tant que secteur. Pourquoi? Parce que on est dans une phase de changement qui est tellement dynamique que la seule réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer. Il y a souvent les sociétés, les McKinsey, les je ne sais pas qui va dire qu'est-ce qui va se passer. La réalité, c'est que personne sait exactement ce qui va se passer parce que la dynamique de changement, elle est trop vite, c'est trop chaotique même. Et dans ce stade, dans cette situation, il y a une seule règle, c'est qu'il faut que tu investis dans toi-même. Il faut que tu ne rompes pas ton destin à ton employeur, à ton état ou à n'importe qui. Il faut que tu investis dans toi-même et que tu, je simplifie, que tu t'es un peu débrouillé à travers des années et des années. Et parce que ça ne va pas garantir succès, mais imagine si tu ne fais pas ça, là, ça va être très compliqué. Alors, la dynamique de changement est très vite. Les institutions publiques, privées et les acteurs privés, parce que Madame Sandra dit aussi très bien, aujourd'hui, l'offre est tellement beaucoup plus grande que juste le système accrédité, le système soit privé, soit étatique, mais accrédité. Il y a tellement de cours qui sont complémentaires. Nous, en tant qu'école aussi, parfois, on rajoute de content qui n'est pas académique dans notre offre académique pour faire un mix. Ça veut dire que voilà, les providers sont là. Il y en a de plus en plus. Il va avoir de plus en plus. C'est aux individus aussi de suivre le parcours, académique, mais de continuer tout le temps à rajouter eux-mêmes ce qui les intéresse et prendre le destin dans leurs mains.
Tout ça, donc, on a trouvé que la formation a changé et comment les employeurs se sont adaptés à ces changements. Est-ce que là aussi, il y a eu un changement de pensée?
Je pense que déjà, puisque les employeurs recrutent par rapport à un diplôme prédéfini, par rapport à un poste qu'ils ont bien identifié, je pense que les diplômes ont toujours leur valeur parce que ça donne déjà, ce bagage avec lequel on vient et ce sera ce bagage sur lequel quand même on va bâtir. Donc, c'est comme on vient d'exprimer. En fait, on va jamais s'arrêter. Ça, c'est évident. C'est comme un ticket d'entrée. Et bien sûr, on regarde par rapport au diplôme, par rapport à la spécialisation, etc. Mais il y a quand même aussi, d'un autre côté, le mindset de la personne qu'on a devant soi, parce que c'est aussi, on parle souvent des compétences techniques, des hard skills, et c'est vrai que, et bon, je ne vais pas maintenant anticiper, on va encore parler d'intelligence artificielle.
Vas-y, lâche-toi.
Mais, voilà, mais je pense qu'au niveau des soft skills, c'est clair, le mindset, cette ouverture, cette résilience, etc., un tas de, d'éléments qui entrent en compte. Mais c'est vrai que la ticket de départ, la diplôme en tant que tel qu'on a dans la poche, voilà, c'est quand même essentiel. Hein. Mais il n'y a pas maintenant eu, je veux dire, des changements massifs. Donc, la seule chose que je peux vraiment dire, c'est que il y a une autre multitude de spécialisations. Dans le temps, c'était un master général en finance. Aujourd'hui, on a plein de spécifications, plein de spécialisations dans le contexte, par exemple, du risque, du compliance. Donc, en fait, toutes ces thématiques qui, pour l'instant, pour lesquelles on recrute le plus et pour lesquelles on a vraiment une vue sur le marché, c'est évident, c'est, on va dire, la spécialisation va faire en sorte ou va donner cette direction. Parce que vraiment, un jeune universitaire, même s'il a fait un diplôme, je pense qu'aujourd'hui, il sait un peu plus ou un peu mieux vers quelle direction plus concrète il aimerait bien continuer. Dans le temps, c'était plutôt des cursus généraux, pardon. Et donc, forcément, c'était, comme je viens de dire, un ticket d'entrée. Aujourd'hui, ils recherchent quelque chose de beaucoup plus spécifique. Maintenant, c'est à l'employeur de voir, OK, est-ce qu'il y a ce perfect match par rapport au poste que je peux proposer et le projet professionnel que l'étudiant ou le candidat nouvellement diplômé a en tête.
Oui, j'ai envie de rejoindre ce point. Pour moi, le diplôme me paraît crucial aussi, et c'est pour ça que les écoles sont là, enfin les écoles ou les universités, c'est pour délivrer ce diplôme, parce que le contenu, on peut aller le chercher partout, on peut aller le chercher... Enfin, on a des formations sur LinkedIn, enfin, il y a des formations partout, on peut aller chercher le contenu partout, mais si cette façon d'assimiler le contenu n'est pas visée par un diplôme, n'est pas... diplômé, voilà, on a beau apprendre tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Pour le marché du travail, je pense qu'on ne rentrera pas. Et puis, au-delà de ça, l'école de commerce ou l'université, évidemment, elle apprend beaucoup plus que des hard skills. Voilà, les mm-hmm. étudiants se retrouvent dans un environnement qui, plus tard, sera un environnement d'entreprise. Donc, ils sont amenés à interagir, à s'organiser, à vivre des expériences culturelles différentes. Donc, c'est tout ce package aussi qui est offert dans l'enseignement. Et enfin, la chose la plus précieuse qu'on retire de ces études, enfin, je pense pour ma part, en tout cas, c'est le réseau. C'est finalement le meilleur diplôme de l'école qu'on peut avoir.
Et donc, on revient aux soft skills en la fin.
Oui. Pour peu qu'on se débrouille un peu bien avec les hard skills. Après, oui, ce qui compte, ouais. C'est...
L'un ne va pas sans l'autre. C'est plutôt ça, je dirais, parce que j'ai encore récemment lu un article et là, c'était plutôt focusé sur les soft skills. Hein, du genre, voilà, les soft skills ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, si j'ai aucune idée de faire des reporting ou de comment dire, si j'ai aucune idée sur le risk management, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer et vraiment délivrer aussi de la qualité dans le poste qu'on va occuper. Hein. Donc, je pense que sans les hard skills, ça sera quand même pas possible. Par contre, si je peux rajouter un point, c'est plutôt les diplômes universitaires, c'est vraiment une bonne partie. Je pense que la partie la plus large, mais ce que j'ai pu quand même observer les dernières années, c'était qu'au niveau des certifications, que ça commence, comment dire, il y a aussi une démultiplication des certifications. Donc on voit, et d'ailleurs je rejoins entièrement ce que tu viens de dire, Stéphanie. En fait, la formation on peut trouver partout. Mais la certification donne quand même aussi à un employeur l'assurance que les compétences que cette personne a pu acquérir sont quand même bien figées, ficelées, etc. Donc voilà, on peut se reposer aussi sur ce background. Hein. Et donc et d'ailleurs de plus en plus, et ça c'est maintenant quand même un phénomène un peu plus récent, hein, des dernières années, on recherche plus proactivement aussi les certifications. Hein. Et donc, il y a des recyclages derrière, etc. Donc, il faut les renouveler. Hein. C'est pas une fois appris et détenu pour toujours. Et ça, c'était en fait le seul point, parce que je pense que bien terminer ses études, ça se termine jamais. Hein. Donc, c'est du lifelong.
Du lifelong learning, ouais. De la curiosité, des échanges à travers lesquels on apprend quelque chose. Mais toi, Marine, tu me disais tout à l'heure que ton école que tu as fondée, ça fait 10 ans maintenant, donc joyeux anniversaire. Et tu l'as créée justement parce qu'il n'y avait pas d'établissement qui offrait un MBA. Maintenant, si tu es sur le terrain et en toute objectivité, est-ce qu'il y a encore des choses qui manquent, qui devraient être présentes à Luxembourg pour mieux matcher des employés avec les employeurs?
Sans faire de promo, je vais essayer d'un peu expliquer à travers l'exemple de LSB. Et il y a un exemple très, très simple. Oui, en 2013, j'ai compris qu'en fait, Luxembourg n'avait pas une business school. Il y avait des business schools externes, mais ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait pas Luxembourg School of Business. Et alors, on peut se demander, mais pourquoi ouvrir une business school à Luxembourg, ce qui est géographiquement au centre d'Europe et dont radius de 200-300 kilomètres, tu as une des meilleures business schools au monde. Mais en fait, parce que c'est très simple, les institutions académiques existent dans plusieurs contextes. Et un contexte, et moi je pense peut-être le contexte le plus crucial pour commencer, c'est le contexte national. Ça veut dire que je peux te dire, je connais par exemple une excellente, excellente, excellente école qui se trouve en Varsovie. Et Pologne, c'est génial, c'est une des économies les plus dynamiques d'Europe. Mais déjà, le fait qu'elle est en Varsovie ou à Zagreb ou à Milan, je ne sais pas où, ça le met dans un contexte qui est tellement particulier que c'est difficile à comparer à une école qui est à Paris ou à une école qui est à Londres. Et moi, j'étais convaincu dès le début que Luxembourg, c'est un pays idéal pour créer non une business school qui va être locale, mais une business school qui va être dans 10-15 ans une des meilleures au monde. Et ça, je sais, à l'époque, tout le monde me disait, moi, qu'est-ce que tu parles? À l'époque aussi, j'ai dit ça pour un peu aussi motiver des gens, même si je le crois. Aujourd'hui, je te dis, c'est juste la question de temps. Parce que c'est vraiment si tu donnes aux élèves un challenge imaginaire et tu dis, OK, décrivez s'il vous plaît un pays qui a des caractéristiques quasiment parfaites pour créer une business school qui va être vraiment international, projeté de manière internationale, tu sais ce qu'il ferait? Il te décrivait Luxembourg. Et en fait, je vais maintenant donner un exemple. Il y a beaucoup d'excellentes, excellentes institutions académiques qui sont dans des pays qui sont soit focalisés trop sur eux-mêmes, soit c'est des... parfois de grandes civilisations, alors ils n'ont pas vraiment besoin de projeter à l'international. Et ça devient leur problème. Au début, non, parce qu'au début, d'un contexte, ils sont très bien dans le contexte local. Mais si tu as une business school et tu es focalisé sur un contexte local, ça, tu ne devrais pas exister. Il n'y a aucune raison pour que tu existes. Parce que le business school, c'est le segment d'éducation supérieure qui est le plus international. Techniquement, étudier, par exemple, engineering, en termes de contenu, c'est quasiment la science universelle, disons. Et c'est comme maths. Mais la langue te bloque. Et tu vas, par exemple, tu vois c'est compliqué aujourd'hui, mais à cause de politique, mais tu vois en Chine, en Russie, aux États-Unis, il y a des gens qui sont des scientifiques qui sont magnifiques, mais parfois c'est la langue qui bloque. Et en business, la langue, c'est anglais. Si tu n'enseignes pas en anglais, tu ne vises pas vraiment à l'international. Ça, c'est mon opinion.
Et est-ce que ce genre d'école, ça attire des gens envers le Luxembourg ou est-ce que ça sert déjà à des gens qui sont déjà là?
Ah non, OK. Merci pour cette question. Vraiment. Parce qu'au début, quand on a commencé, moi, j'ai dit toujours aux gens, tu ne peux pas même essayer de créer une business school avec un marché de 650, 700 000 personnes. C'est impossible. Et encore moins possible de créer une bonne business school. Mais on a tellement des exemples qui renforcent mon argument. Par exemple, déjà, tu vas en Belgique, tu vas en France, les écoles, les bonnes écoles françaises comme ESK ou en Belgique comme HEC Liège, ils pourraient jamais vraiment exister à un niveau auquel ils sont s'ils étaient que focalisés sur la ville où ils ont commencé. Oui, de plus en plus, des écoles, de bonnes écoles de commerce sont très, très focalisées sur attirer des gens de l'international.
Oui, bien sûr. L'international est un aspect hyper important dans ces études-là, effectivement, plus que dans d'autres études, probablement. Et donc, c'est un des points majeurs de ce genre d'école. Oui, soit elles ont l'avantage d'être situées au cœur de l'Europe, soit elles vont aller créer des campus internationaux pour se diversifier.
Donc, on peut dire que la présence d'écoles comme la tienne, ou voire des antennes des grandes écoles à Luxembourg, ça sert aussi à attirer du talent vers le Luxembourg.
Absolument.
Oui. Oui, c'est la porte d'entrée avant le job. Donc, on sait que le marché du travail, surtout dans le secteur financier à Luxembourg, est quand même assez dynamique, offre beaucoup d'opportunités. Donc voilà, si on peut aussi, et ça va dans les deux sens, attirer les talents vers le Luxembourg, ils peuvent vivre leur expérience d'études ici, dans la perspective d'ensuite peut-être être employé dans une entreprise, ou justement de déjà se dire « Ok, c'est pas pour moi, donc voilà, tout le monde est gagnant, quoi. L'entreprise ne perd pas son temps et l'étudiant ne perd pas son temps non plus. »
Je voudrais rajouter une autre perspective aussi, en plus. Oui, ça attire du talent, mais revenons sur l'idée de contexte national dans lequel une institution d'éducation supérieure se forme. Je trouve aussi qu'un des buts, c'est aussi de créer des ambassadeurs de Luxembourg partout dans le monde, d'aider un peu au rayonnement de Luxembourg. Pourquoi ? Parce que l'éducation supérieure est peut-être une des décisions les plus importantes que les gens font dans leur vie. Ça détermine comment tu vois le monde, ça détermine tout, et ça te donne ton, disons, deuxième pays. Moi, j'ai fait mes études en France, j'ai vécu là assez de temps que, à l'époque, j'ai considéré ça comme mon deuxième pays. Maintenant, je suis tellement à Luxembourg. Luxembourg, c'est mon premier pays, quasiment. Mais je veux dire, pourquoi c'est important? Parce que, oui, il y a des gens qui veulent venir à Luxembourg travailler ici. Mais il y a énormément de gens qui cherchent leur éducation dans un contexte différent de celui où ils ont vécu toute leur vie. Et après, ils veulent revenir. Et quand ils reviennent, guess what? Luxembourg, ça reste, comme les Américains, ils disent, on top of their mind. Pour n'importe quoi ce qu'ils veulent faire, Luxembourg, dans ce cas Luxembourg, devient un réflexe. Et ça, en fait, c'est pour être même un peu... peut-être c'est une blague, ou je dirais pas, c'est pas cynique parce que c'est pas méchant, mais théoriquement, ça, c'est la diplomatie, on peut dire, économique la moins coûteuse que tu peux imaginer, parce que les gens, ils payent pour venir ici, pour vivre ici, ils contribuent à l'économie luxembourgeoise pour après revenir dans leur pays et toujours rester ouvert pour faire des opportunités de business avec Luxembourg. Théoriquement, tu devrais les payer pour faire ça. Sauf que c'est eux qui payent toi pour faire ça. C'est vraiment très fort. Et beaucoup de pays, ils ont compris ça déjà longtemps. Les États-Unis sont le meilleur exemple.
Maintenant, malheureusement pour vous, je crois, il y a eu un dossier aussi dans l'Economist du 17 août où il parlait justement de cette talent attraction aussi et que bah, tout le monde veut avoir the brightest minds, comme on disait. Mais il y a souvent aussi la politique d'immigration qui est un peu dans le chemin. Donc, est-ce que là, de ce côté-là, chez nous, c'est assez OK pour genre s'il y a des gens qui veulent venir d'Inde, qui veulent venir de la Chine, est-ce que là, on leur met pas des bâtons dans la roue?
OK. Ça, c'est une bonne question. Alors, Luxembourg, honnêtement, n'a pas ce problème. Je ne vais pas dire n'a pas encore ce problème. Je pense que Luxembourg ne va pas avoir ce problème. Pourquoi? Parce que je parle maintenant de l'éducation supérieure. Il y a deux types d'immigration. Et il y a aussi un problème qui est un problème sérieux. Il existe des institutions en Europe et un peu partout dans le monde qui sont de qualité très, très douteuse. Et en fait, c'est un immigration play. Hein. Ils ont accréditation de l'État, n'importe quel État. Tu peux avoir une visa, tu viens. Et en fait, le focus, ce n'est pas sur l'éducation, c'est sur intégrer un pays ou Union européenne. Luxembourg ne va pas avoir ce problème parce que déjà, Luxembourg est assez cher pour vivre. Venir ici, c'est un grand investissement. Et déjà là, tu fais de l'immigration très sélective. Peut-être que ce n'est pas gentil de dire ça, mais c'est la réalité. Luxembourg, ce n'est pas l'endroit où les gens vont venir s'ils n'ont pas les moyens de vivre ici. Je ne pense pas que l'immigration va être un problème pour Luxembourg. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. Surtout, ce n'est pas un problème, je pense, dans le secteur des enseignements supérieurs luxembourgeois, parce que c'est quand même un secteur qui est assez rigoureux. Il y a focalisé sur qualité. Je peux te confirmer, travailler avec le ministère de l'éducation supérieure et recherche, maintenant c'est recherche et éducation supérieure, ils sont assez rigoureux. C'est pas facile de satisfaire aussi leurs critères et de maintenir les critères. C'est pour ça qu'à Luxembourg, en fait, il n'y a pas des institutions qui peuvent, disons, offrir des visas et qui ne sont pas de qualité. Ça, ça n'existe pas. Alors voilà.
J'ai quand même l'impression, mais sans en connaître les détails, qu'il y a encore des barrières pour faire venir ou pour accepter des étudiants non européens, par exemple.
Oui. Alors, de nouveau, de même manière. Par exemple, ce qui est quand même un peu grave, c'est Luxembourg, si tu veux avoir une visa étudiante, tu dois prouver que tu as 17 000 euros sur ton compte bancaire. Ce qui est pas, oui. C'est beaucoup
voilà,
d'argent.
Pendant six mois,
c'est pas facile. C'est pas, tu peux pas juste montrer, voilà, 17 000 euros que mon père m'a donné hier. Non, non. Tu dois donner relevé de compte pendant les six derniers mois que t'as. Je trouve que ça, c'est pas une bonne chose parce que c'est aussi bête d'avoir juste 17 000 euros sur ton compte, spécialement si tu viens de pays où l'inflation, elle est à 30%. Stéphanie, tu es prof de finance.
On va faire un petit calcul rapide.
c'est pas facile. Mais ça...
Par exemple, ça, c'est une barrière
pour un étudiant indien
qui voudrait venir étudier à Luxembourg. Ouais.
En fait, c'est une barrière pour un étudiant indien qui n'a pas 17 000 euros sur compte.
Voilà,
oui, c'est vrai.
Donc, c'est une sélection aussi.
Non, ce qui est dommage, et je ne dis pas que c'est bien, mais ça renforce encore plus l'argument que j'ai dit que tu ne vas pas avoir l'immigration non contrôlée, disons, des gens qui ne peuvent pas après vivre à Luxembourg. Ça, à Luxembourg, en ce moment, ce n'est pas possible.
Mais est-ce qu'avec cette action, on ne se prive pas des futurs talents? Parce que tout le monde se plaint quand même.
Oui, mais...
On risque, a priori. On risque. Ouais.
Théoriquement. Ouais, mais théorie. Après, tu peux éteindre l'argument sur le prix de real estate, de tout. Hein. On se prive de talents parce que c'est difficile à vivre ici aussi. Moi, je pense que la question de talent, c'est une question de stratégie aussi. Quel talent tu veux attirer? En ce moment, Luxembourg, c'est un pays où c'est pas... je dis souvent, si je suis dans des interviews avec des étudiants, nous, on passe beaucoup de temps de vraiment comprendre les motivations des gens parce qu'on veut leur dire « Ah, c'est ça ce que tu veux. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Nous, on n'est pas une école pour toi. Va ailleurs. » Parce que c'est une décision tellement importante et le coût financier il est tellement grand que tu ne veux pas avoir des gens ici pour des mauvaises raisons. C'est pour ça que nous, quand on accepte les étudiants, bien sûr, on regarde le côté académique, la motivation, mais aussi on est toujours en contact avec des sociétés. On a un très bon career center. Ça veut dire que nous, on anticipe déjà avant que l'étudiant vient à LSB, quand il est dans le processus d'admission, on anticipe déjà, est-ce que cette personne pourrait trouver en fait un bon career path à Luxembourg? Parce que sinon, c'est mieux de peut-être d'aller ailleurs.
Mm-hmm. Je pense que c'est important même pour le côté des employeurs de rechercher des partenariats avec tes hautes écoles, avec tes universités, avec tes business schools, parce que forcément, la pénurie des talents est clairement là et ben, tout le monde sur la place financière, par exemple, recherche un peu les mêmes profils. Donc, bien sûr, il faut être tout près des talents. Donc, dès qu'il y aura des stages à proposer, dès qu'il y a les classes de master qui vont graduer, etc., il faut tout de suite, a priori, profiter se montrer, etc., créer des contacts. Hein. On avait juste parlé du networking aussi, juste avant. Et je pense que ça, c'est très important. Par contre, pour l'instant, c'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi des règles par rapport aux stages qu'on peut proposer, etc. Donc, en fait, il faut vraiment faire des efforts aussi, même en tant qu'employeur, pour rechercher les bonnes informations, pour être sûr qu'on peut peut-être proposer tel et tel stage, etc. Et là, pour l'instant, moi, personnellement, je vois pas encore très clair. Hein. On va entamer des recherches, mais c'est vrai que ça devrait être un peu plus facile, hein. Même par rapport aussi au ministère, qui pourrait peut-être même guider les employeurs, respectivement les universités. Hein.
Ah, les stages, c'est quelque chose qui est particulièrement embêtant quand on est étudiant, parce que les rejets, on en reçoit. Et en plus, il y a quelque chose que je trouve génial en France, c'est le système des VIE. VIE, c'est un programme où tu es en école de business, tu t'envoies pendant 6 mois quelque part. Et 6 mois, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup, beaucoup d'autres jeunes qui faisaient cette expérience de 6 mois dans des vrais postes opérationnels, parce que on se prend le temps de former ces gens au métier. Déjà, ça leur permet de se rapprocher du vrai professionnel. Et puis après, celui qui investit dans cette formation, il a aussi un retour sur son investissement parce que ces gens-là, ils peuvent, après un mois de schooling, ils peuvent faire les tâches que les autres font aussi probablement. Donc, et le VIE, c'était toujours une porte d'entrée pour tous les Français à Luxembourg. Et après, probablement, ils vont rester. Mais pourquoi on n'aurait pas ça, un VIE ?
Une clarification. VIE, c'est visé à l'étranger. Ça, c'est vraiment focalisé sur l'étranger. Et oui, c'est très bien. Il y a d'autres modèles qui ne sont pas nécessairement à l'étranger, comme alternance, etc. Mais ça c'est autre chose. Mais oui.
Oui. Moi, ça m'a fait penser au modèle alternance, qu'on appelle alternance en France, qui a l'air quand même... c'est un modèle qui fonctionne assez bien, où c'est pas seulement 6 mois, c'est carrément pendant 2 ans, donc tout le temps du master où les étudiants sont à moitié en entreprise, à moitié à l'école, donc à moitié en enseignement. Et ça, c'est. Mais effectivement, il y a tout un cadre légal et toute une infrastructure derrière. Ce sont. De nouveau, je connais pas les détails, mais ce sont les entreprises qui cotisent pour. Payer ces étudiants et donc eux ils ont déjà un petit revenu ce qui est non négligeable aussi en tant qu'étudiant donc ça c'est vraiment un bel exemple de collaboration entreprise école de commerce qui va dans les deux sens et c'est vrai que ici à Luxembourg je n'ai pas connaissance de ce genre d'initiative. Donc, on va vraiment miser sur les stages pour créer ce lien entre les étudiants des écoles de commerce et des entreprises.
L'idée est géniale de bien sûr, rapprocher le monde académique et celui des entreprises. Nous, par exemple, on a pris une autre approche parce qu'à Luxembourg, l'alternance de manière légale n'existe pas. Dans tout notre programme, à part le executive MBA, parce que c'est des gens qui sont déjà dans le upper management, dans tout le programme, nous, on a, par exemple, à la fin de 2 ans de master, le dernier semestre pendant 6 mois, c'est internship obligatoire, rémunéré. Et nous, on a après notre Career Center et notre chère Elisa Jensen, ciao to Elisa, qui en fait parle, en fait, elle passe beaucoup de temps pour expliquer aux sociétés comment ça marche, etc. Et même négocier les bonnes conditions pour nos étudiants. Et en fait, ça crée une situation où tu apprends pendant 1 an et demi, tu es focalisé sur tes études et après tu es complètement dedans dans les 6 mois de internship. Et après, je pense, la statistique, c'est presque 80% des étudiants, ils reçoivent des CDI, des offres de CDI après. Voilà, alternance.
Oui, mais le stage 6 mois, c'est un beau modèle aussi. Et dans un master classique, souvent, c'est ce
pas quelque chose de très, très original.
Oui, voilà. Mais non, mais c'est
je pense que c'est un problème syndical qui fait qu'ils disent justement que c'est une concurrence à un employé normal parce que c'est moins cher. Donc, ouais. Si on regarde maintenant avec les dernières évolutions technologiques, donc on a brièvement parlé au départ, comment l'intelligence artificielle va impacter le mode de la formation de base, la formation continue et le lifelong learning?
En fait, je trouve que l'intelligence artificielle, si elle continue à se développer dans la direction dont on voit que ça se développe, ça va avoir un impact sur l'éducation comme sur toutes les autres industries ou activités humaines. Ça va augmenter le levier ou les critères que un humain, en fait, ça va augmenter les critères de performance requises par les humains. Tout le monde qui va être, en fait, mise en danger à cause de AI aura un vrai problème. Et là, il n'y a pas de syndicat de l'État qui va te sauver. Ça veut dire que dans l'éducation supérieure, si tu es un prof et si tu es facile à remplacer par le IA ou AI, tu as un problème. Si tu es une institution, tu as un problème. Alors, de manière générale, ça va simplement exiger de tout le monde de faire mieux et d'être plus original, et à la fin du jour, d'être plus humain. Ça va renforcer l'humain dans nous. Ça, c'est, disons, la perspective de manière genre bird's eye, très, très large de ce qu'il va faire. Voilà.
C'est presque philosophique déjà.
Oui, c'est absolument. Parce que quand tu penses, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, de nouveau, que je suis très optimiste, au moins sur le secteur d'éducation et l'importance de l'éducation. Parce que quelle est l'alternative à cela? L'alternative à cela, c'est que tu dis « Ok, je peux pas. » Voilà.
Oui, ça me donne envie de réagir, effectivement, ouais. Parce que, comme tu dis, ça va obliger tout le monde à faire mieux à condition d'être « on board ». De déjà être dans le train en marche. Et c'est ça un peu... Le risque que je vois, c'est un peu trop de passivité de la part des étudiants. Ben, ils se disent « Ok, l'intelligence artificielle a la réponse, donc je ne vais pas aller la chercher. » Et donc, c'est tout ça qu'il faut un peu... pour moi, c'est là, en tant qu'enseignant, au jour d'aujourd'hui, je vois ça comme un des plus gros challenges, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle, évidemment de ne pas la bannir et vraiment de partir du principe. Moi, je pars du principe, si je pose une question aux étudiants en cours, je pars du principe que la première chose qu'ils vont faire, c'est demander à l'outil d'AI la réponse. Donc évidemment, il faut, de la part de l'enseignant, il faut aussi se réinventer, être créatif. Qu'est-ce que je peux leur demander qui ne soit pas là comme ça, tel quel, qui les force quand même à aller chercher la réponse et à s'investir. Donc clairement, quand l'intelligence artificielle est sortie, enfin c'était un peu fin 2022 et puis On a beaucoup parlé de ChatGPT. J'étais en salle de cours en janvier 2023. C'est là que moi, j'ai appris l'existence de cet outil. Et comment est-ce que j'ai appris l'existence de cet outil? C'est grâce aux étudiants qui, évidemment, quand ils sont dans un cours, ils sont souvent en train de préparer le devoir du cours suivant. Donc, au pause, on perçoit pas mal de choses. Et donc, ils étaient clairement convaincus du fait... voilà, c'est eux qui m'ont parlé de cette personne qui sait tout mieux, qui explique mieux, qui fait le travail, qui demande à l'IA, elle va t'écrire ton texte. Donc d'abord, quand on entend ça en tant qu'enseignant, ça fait un peu peur. Et puis après, on réfléchit et on interagit avec les étudiants et on voit qu'il y a quand même encore... voilà, pour l'instant, il y a encore de la place pour l'enseignant, je pense, et pour accompagner les jeunes et les étudiants dans l'utilisation de ces outils. Parce que, oui, d'une certaine façon, on peut dire l'outil a toutes les réponses, mais ça dépend aussi comment on lui pose la question. Et parfois, le problème est de formuler la question pour avoir la bonne réponse.
C'est évident, c'est vrai, c'est pas si évident. Je pense que, tel que tu l'as décrit, hein, je pense que... ChatGPT ou l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le vécu personnel d'un enseignant qui va quand même partager son savoir, partager ses expériences éventuellement. Et donc, je pense qu'au niveau de, comment dire, d'une entreprise, c'est plus, peut-être plus simple. Je sais pas, hein, je vais le faire entre guillemets. C'est vrai que on voit clairement les chances. Hein, donc, ça peut vraiment avoir un bénéfice par rapport à l'optimisation, à l'automatisation des tâches, donc vraiment éliminer peut-être des tâches récurrentes, mettre un peu plus le facteur humain au centre, donc aller libérer du temps pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose. Donc, ça peut vraiment présenter une chance. De l'autre côté, et c'est pour ça que d'ailleurs, au début, on avait parlé des soft skills. Donc, on est quand même convaincu que, l'intelligence artificielle va pas nous insuffler la résilience ou l'empathie ou, donc, en fait, le facteur humain en tant que tel. Je sais que, d'ailleurs, sur Nexus, où il y avait, je pense, elle s'appelait Sophie, donc c'était le robot, j'en sais rien comment il faudrait le dénommer. C'est vrai que c'est parfois un peu futuristique, hein, donc d'un côté, je trouve ça fascinant, donc je suis aussi plutôt optimiste et positive, mais c'est vrai que il faut bien impliquer les gens assurer un bon change management, hein, et s'adapter au fur et à mesure, parce que ce ne sera pas du jour au lendemain que AI va prendre les devants sur tel et tel métier. Hein. Donc, il y aura quand même une phase d'adaptation, une phase de développement. Il y a aussi un coût derrière, donc il y a l'impact environnemental éventuellement aussi à travers tous les serveurs qui chauffent, etc. Donc, il y a plein de choses à vérifier, à contrôler. Il y a toute la gouvernance à mettre en place. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on réfléchit beaucoup là-dessus. Hein. Donc, il y a quand même aussi des contraintes, bien sûr. Hein, donc, protection des données, etc. Donc, je pense que la gouvernance en tant que telle, elle est vraiment importante. Et puis, bien sûr, progresser par des étapes. Hein. Donc, je pense qu'on aura assez de temps pour s'adapter.
Oui, non, je voulais juste rebondir là-dessus. Effectivement, et ça m'amène un peu au point avec lequel on avait commencé, comment l'enseignement évolue. Clairement, avec ces outils, il faut repenser notre façon d'évaluer les étudiants. Ça, c'est clair qu'avec un écrit, faites-moi un écrit sur tel sujet dans une semaine, ça ne vaut rien. Enfin, en tant qu'évaluation. Donc là, il faut... Oui, il faut aussi un peu innover à ce niveau-là. Ouais.
Bon, on voit qu'il y a des challenges niveau formation. C'est des challenges qui sont aussi reconnus sur la place financière, parce qu'il y a encore quelques mois, le CEO de la ABBL, ils ont annoncé que la formation allait être encore une fois augmentée dans les budgets pour les entreprises qui ont signé la convention collective financière. Donc voilà, je pense que le Luxembourg, il est conscient du problème et qu'il faut investir dans dans la formation et que il faut rester attractif pour attirer du talent de partout dans le monde pour faire proliférer l'économie luxembourgeoise. Donc merci pour ces insights très passionnés, très intéressants, et à la prochaine.
Evergreens by Spurkiss. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.